dimanche dernier, plutôt samedi dernier, nous étions préparés à la fête de la Pentecôte pour parler ensemble de ce grand mystère du Saint-Esprit. Ben, vous avez dit comment la Pentecôte, c'était à la fois la fête du Saint-Esprit et puis la fête de l'Église. Et si l'Église aime fêter juste après la fête de la Pentecôte la Sainte Trinité, dans l'ordo dominicain autrefois, alors que dans l'ordo romain, on marquait les dimanches après la Pentecôte, nous c'était les dimanches après la Sainte Trinité. La fête de la Sainte Trinité, c'est comme, je dirais, c'est plus naturellement, ça arrive, c'est le complément de cette fête de la Pentecôte. C'est parce qu'en fait, c'est le Fils seul qui peut nous révéler son Père, mais c'est l'Esprit Saint seul qui peut nous révéler le Fils. La réalité, c'est le Saint-Esprit qui introduit à l'intérieur de ce mystère de la Sainte Trinité, fait vraiment vivre le mystère de la Sainte Trinité. Et je pense que si nous voulons profiter de la grâce de notre temps, vous voyez, donc être des fils et des filles de l'Église catholique, c'est faire de toute manière de profiter des grâces de l'époque. Nous savons que c'est un temps très difficile, mais que c'est en même temps un temps où il y a une surabondance de grâces. Je crois que le Concile, s'il a voulu présenter le visage de l'Église, vous voyez, ce qu'il y a le plus frappant, c'est que c'est le visage de l'Église, absolument inséparable de Jésus, et de Jésus dans le mystère même de la Sainte Trinité. Vous voyez, trop longtemps, au fond, les chrétiens, quelquefois, se sont contentés de connaître le Dieu, si vous voulez, de la philosophie, ou le Dieu créateur, le Dieu provident. Mais n'ont pas eu assez de, enfin, je dirais, de soucis, mais dans le sens profond du mot, tout de suite de pénétrer le mystère de la Sainte Trinité. Et je me rappelle que quand j'étais jeune prêtre, c'était très douloureux d'entendre quelquefois des prêtres dire « Oh, la Sainte Trinité, je ne crois jamais, parce que j'ai trop peur que ça des hérésies. » Et de fait, on prêchait très peu sur la Sainte Trinité. On parlait très peu de la Sainte Trinité. Je vous avoue que je suis persuadé qu'un des grands bénéfices de la liturgie en français, hein, ça a obligé les prêtres à prêcher beaucoup plus sur la Sainte Trinité. Parce que dans toute la liturgie, il est toujours question de la Sainte Trinité. C'est toujours le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et au fond, ils ont été obligés, pour expliquer les prières qu'ils disaient, bien, de faire entrer les fidèles dans le mystère de la Sainte Trinité. Et ça, je crois que c'est la première grâce d'avoir demandé pour cette fête de demain. C'est que, plus profondément que jamais, le Saint-Esprit nous fasse comprendre que le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu d'amour. Vous voyez, le pape répète sans cesse, nos contemporains ont besoin qu'on leur parle du Dieu d'amour. Mais le Dieu d'amour, c'est la Sainte Trinité. Et si nous voulons que le Saint-Esprit éclaire bien quand on parle du Dieu d'amour, il faut parler de la Sainte Trinité. Quand dans la liturgie, on parle du Dieu vrai, du Dieu vivant, du Dieu qui préside à la création et à l'histoire. De fait, nous savons que c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Je pense que nous avons une très grande grâce à demander. Et quand nous restons au plan du Dieu créateur, de Dieu l'être simplement, le Dieu tout-puissant, le Dieu. C'est à travers nos concepts que nous attribuons Dieu. Ce n'est pas le Dieu vrai. Enfin, c'est la Sainte Trinité qui est le Dieu, je dirais, existentiel, le Dieu tout à fait véritable. Et ce qui est très frappant, c'est que la Sainte Trinité, c'est en même temps ce Dieu, parce que c'est le Dieu de l'amour, justement, celui qui est le plus abordable aux petits, aux pauvres, aux agonisants. Je vous ai déjà dit, mais je le répète, parce que je crois que c'est très... Au début que j'étais ici, dans ma catéchèse près de nos pauvres, pensaient qu'il fallait au moins qu'ils aient un petit peu notion du Dieu créateur avant de leur parler de la Sainte Trinité. Et puis, petit à petit, en tâchant de rester bien fidèle au Saint-Esprit, j'ai découvert que si on tâchait de suivre la grâce, Jésus qui connaissait tout lui, que Jésus pour eux, c'était le Fils de Dieu, ils comprenaient immédiatement. Et que Jésus, tout naturellement, on parle de son père, mais c'était beaucoup simple pour eux. Et que quand on avait parlé de Jésus et de son père, ça faisait comprendre tout de suite, au fond, ce Dieu qui était dans leur cœur, ce Dieu tout intime, au fond, ça faisait comprendre le Saint-Esprit. Donc, le Dieu le plus abordable aux petits, aux pauvres, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Et qu'au fond, ça, je crois que c'est une des... Ce que l'Église a demandé très fort au plan de la catéchèse, oui, c'est vraiment de commencer, oui, par le mystère Jésus et la Sainte Trinité. Vous voyez, quand vous récitez votre credo le dimanche, ou chaque fois que vous dites le credo avant le chapelet, par exemple, il faut que nous prenions très fort conscience comment le Saint-Esprit, dès le début du christianisme, tout à fait au début du christianisme, a voulu rattacher toutes les vérités de foi à trois personnes, aux trois personnes divines. Je ne sais pas si vous avez réalisé tout ce que ça comporte. Je crois au Père, je crois au Fils, je crois à l'Esprit Saint. Encore demain, quand nous aurons un baptême, au fond, pour résumer toute la doctrine chrétienne de façon vivante, de façon aimante, toute simple, en demandant les choses essentielles, demandera, croyez-vous à Dieu le Père? Croyez-vous au Fils, à Jésus? Croyez-vous au Saint-Esprit? Mais, pas si vous réalisez, en philosophie, toute sagesse cherche à trouver des principes. Philosophie, on arrive à voir dans la philosophie d'Aristote, un premier principe aux gens suprêmes, prédicament, dans les arrivées transcendantaux, aux premières notions, et que quand on est vraiment philosophe, au fond, on voit tout, tâcher de voir tout de suite à quel de ces gens, à quel ça se rattache plus tôt. Pour les chrétiens qui vivent vraiment de sa foi, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est que toutes les vérités qui sont révélées depuis le début, dans tout l'Ancien Testament, dans toutes les religions primitives, elles se rattachent toutes à des personnes. Alors vous voyez comme ça nous aide à ce que toutes nos connaissances de notre esprit, à toutes les connaissances de notre raison, restent bien enveloppées par le cœur. Parce que la Sainte Trinité, c'est le mystère du cœur. Et en fait, si nous voulons vraiment être une personne, c'est même notre effort suprême, nous dégager de tout ce que nous avons un peu d'individualité psychologique, tous les personnages que nous jouons continuellement, qui n'ont pas simplement à être des esprits qui, au fond, qui pensent, mais alors ils sont centre du monde. Non. Si nous voulons vraiment répondre au dessein de Dieu, au dessein de Dieu que nous a prédestiné pour être des personnes, c'est-à-dire des personnes capables d'être aimées et d'aimer, il faut bien voir qu'il y a trois dimensions dans notre cœur pour être tout à fait équilibré. Vous voyez, quelqu'un qui ne voit que le Père, que son Père, par exemple, n'a aucun souci des frères et sœurs. Il n'a aucun souci, il ne pense même pas qu'on peut avoir besoin de se donner un bien-aimé. Ben, il reste tout le temps un enfant. Celui qui n'a que le sens des frères, et qui, parce que soi-disant il n'aime pas l'autorité, il ne peut pas avoir un père, il ne peut pas entendre ce mot. Et puis comme il a le souci de son individualité très forte, chaque fois qu'on lui parle d'un engagement de se donner, il frémit. Ben, au fond, ça reste un terrible égoïste. Qui reste au fond un individu, mais qui reste replié sur lui-même. Vous voyez, celui qui croit pouvoir se donner, mais comme ça, n'importe qui, de toute manière, voyez, il est éparpillé. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans notre vie ? Si, dans notre vie chrétienne, dans notre vie de prière, dans notre vie de réflexion, nous aimons continuellement rattacher tout ce que nous aimons justement aux trois personnes du Dieu. Si c'est très bon d'aimer avoir des maîtres, au fond d'avoir un grand sens des ancêtres, d'avoir un grand sens du Père, De la mère, dans le sens des idées mères, au fond des causes maternelles, comme les économistes d'autrefois, noter avec soin, c'est vrai, c'est une grande ère. Non. Mais si vous ne voulez pas devenir des conservateurs qui s'enferment et qui ne s'ouvrent plus à tout un ensemble du monde, il faut que vous dépassiez tous les pères, tous les maîtres, tous les patrons, au fond, de la terre, pour dire, mais par le fait de ma vie chrétienne, j'ai cette grâce, je peux directement me rattacher au Père. Et que je dois tout voir la lumière d'où vient toute paternité. Et cette paternité, toute paternité vient uniquement du Père. Et pour moi, il n'y a qu'un seul Père. Tous les frères d'un même Père. Il faut que tous se rattachent au Père. Mais qu'en même temps, dès que vous rattachez tout au Père, le Père engendre éternellement son Fils. Et la personne du Père est uniquement constituée dans sa relation avec le Fils. Le Père, il est bien un être substantiel, subsistant, indépendamment de tout. Mais sa subsistance même, c'est tout dans sa relation avec le Fils. Donc, ce Père, nécessairement, il vous donne cette dimension de Fils. Et Jésus incarné, il est venu pour être notre grand frère. Il est venu pour que toutes nos relations fraternelles entre frères et sœurs, pour que toutes nos amitiés, bon, elles aboutissent à lui. Et que nous sentions que, au fond, lui seul, il est le seul qui peut rectifier tout notre amour fraternel, le rectifier et l'ouvrir, lui donner de l'intimité. Et le Fils et le Père, au fond, leur génération, cette génération éternelle, est inspirée par l'Esprit Saint. Donc, nécessairement, ils mettent en contact avec le Saint-Esprit. Vous voyez, alors, le mystère de la Sainte Trinité, vous voyez, c'est ce mystère qui est au cœur, je ne dis pas au centre, non, qui est au cœur de toute notre vie. Et qui nous aide continuellement à nous rectifier. Parce que ça nous fait bien comprendre comment il y a trois dimensions en nous. Moi, je vous rappelle qu'au début, enfin, avant d'avoir pénétré plus profondément le mystère de la Sainte Trinité, que le Saint-Esprit fait pénétrer profondément le mystère de la Sainte Trinité. Ben, il y a eu toutes sortes de problèmes. Au point de vue moral, je trouvais très difficile à résoudre. Et on posait des questions, par exemple, est-ce qu'un mari, par exemple, est-ce qu'il doit aimer plus sa femme que son père ou sa mère? Est-ce qu'il doit aimer plus sa femme que ses enfants? C'est un peu un casse-tête. Et c'est un casse-tête pratique. C'est pas très difficile à résoudre ces questions. Quand vous regardez un lumière de la Sainte Trinité, vous voyez qu'au fond, pour que quelqu'un soit pleinement équilibré, il faut que dans son cœur, il y ait différentes dimensions. Et nous rendons compte que chaque fois que nous manquons un peu d'enracinement, ou nous manquons un peu de stabilité, ou nous manquons un peu d'élan, c'est parce qu'au fond, il y a une des dimensions qui nous manque. Vous voyez, dans la vie de notre cœur. Vous voyez, nous restons enfermés, nos pères c'était quelque chose, nos ancêtres, tous les. On ne reste pas assez ouverts à ceux qui sont, qu'on dira alors l'horizontale, comme une façon négative, au lieu de prendre le point de vue fraternel. Vous voyez, ou alors comme une utopie, au fond, le jamais, en même temps. Alors, vous voyez, ce mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère du chrétien qui vit tous les jours. Parce que c'est, comme je vous disais, c'est le Dieu vrai, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu existentiel, c'est le Dieu qui a créé, c'est le Dieu qui préside à l'histoire, c'est le Dieu qui donne l'explication de la création, c'est le Dieu qui donne l'explication de notre personne. Et donc, c'est le Dieu auquel il faut tout le temps nous référer. Au fond, mais qu'est-ce qui est très important de voir ensemble ? C'est que seul Jésus peut nous faire connaître la Sainte Trinité. Vous voyez ? Je pense qu'il y a eu une certaine un petit peu déviation. Enfin, vous voyez, c'est vrai que Saint Augustin peut-être un petit peu trop voulu dans son traité de la Sainte Trinité, chercher un petit peu tous les symboles dans la nature pour conduire à la Sainte Trinité. Au lieu de noter peut-être plus profondément, rappeler les données des Pères, que ce que Jésus avait dit, le Père, parce que Saint Augustin croyait tout à fait ça, vous voyez, mais dans la manière de présenter, vous voyez, seul le Fils connaît le Père, seul le Père connaît le Fils. La Sainte Trinité a été révélée par Jésus incarné. Tous les hommes les plus inspirés de l'univers, quand ils ont étudié la nature, même les plus poètes, ils ont été absolument incapables par eux-mêmes de découvrir le mystère de la Sainte Trinité. Et même de le pressentir, je dirais, d'une façon vraie. Et, au fond, parce que c'est un tel mystère, en quelque sorte, c'est le mystère par excellence. Et la mystique chrétienne, c'est essentiellement la mystique de la Sainte Trinité. Mais la mystique de la Sainte Trinité, que nous ne pouvons vivre pleinement qu'avec l'incarnation. Et c'est un fait que dès le début du christianisme, au fond, incarnation et Sainte Trinité, les deux mystères ont tout de suite été intimement liés. Je me disais, il y a quelques semaines, la semaine dernière, il me semble, et que tout a été tout de suite autour de la personne. Mais la personne devenant, non pas, n'étant pas simplement un personnage, mais un don de Dieu, le don plus profond que Dieu pouvait nous faire. Là, ça, c'est ça, comme la très grande grâce, il faut demander à notre Seigneur. Jésus nous aide à entrer dans ce mystère de la Sainte Trinité. Et pas dire, oh, la Sainte Trinité, c'est au ciel. Bon, maintenant, sur la terre. Non, c'est le mystère. Vous voyez, au fond, qu'est-ce que le chrétien découvre de plus en plus? Et qu'est-ce qu'il a? Quel est le message qu'il faut qu'il donne? C'est de dire à tous ceux qui sont autour de lui, mais pour moi, c'est la conviction, de plus en plus. Pour moi, c'est l'évidence. C'est que Dieu a créé tout l'univers, mais c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit qui ont créé tout. Mais pour, non pas pour nous révéler qu'il est le Créateur, mais pour nous faire entrer dans l'intimité de sa vie, pour que nous soyons ses fils et ses filles bien-aimés. Comme je le disais ce matin, c'est profondément vrai, vous voyez, pour être comme un milieu de lumière, comme un milieu de vie, et un milieu de ces rapports d'amitié mystérieux, hein, qui fasse que Dieu puisse nous parler comme un père parle à ses enfants. Dans le mystère de la Sainte Trinité, ça, vous voyez donc que tout doit commencer avec la Sainte Trinité. Tout doit s'achever avec la Sainte Trinité. Et au fond, et nous avons à nous accompagner sans cesse. La Sainte Trinité doit venir à notre aide sans cesse. Vous voyez, c'est le grand mystère de la vie chrétienne. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'en même temps, quand vous lisez Saint Paul, si bien qu'au début de ma vie de théologien, j'étais très, très métaphysique. J'aimais beaucoup la métaphysique, j'aimais la logique. Et ça a beaucoup difficile, mais Saint Paul disait, mais il dit toujours tout en même temps. Au fond, on ne peut pas ouvrir une épître de Saint Paul sans qu'il parle des trois personnes divines, sans qu'il parle de la foi, de l'espérance et de la charité, sans qu'il parle de Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Et au fond, j'aurais eu tendance à dire, Saint Paul, c'est un peu plus logique. Au fond, on ne sera pas toujours comme ça, à tout dire en même temps, en quelque sorte. Et, ben oui, mais c'est le mystère, justement. C'est ce mystère incomparable de ce Dieu d'amour. Au fond, ce mystère de la Sainte Trinité, c'est le mystère de l'amour. Et, le mystère de nos pauvres, hein, qui nous rappellent. Au fond, ils ont beaucoup de difficultés à choisir, ils peuvent faire tout prendre. Et au fond, ben, c'est le cœur, vous voyez, il aime partager, mais pour communier, non pas pour diviser. Alors que quand on passe au temps de la raison, chaque fois qu'on parle de partage, on croit que c'est une division. C'est vrai, c'est sûr, quand ce sont des biens matériels, quand c'est un héritage matériel que les parents partagent, il faut bien qu'il y ait une division. Mais quand c'est ça, c'est un héritage spirituel, au contraire, il ne faut surtout pas le diviser. On est tous ensemble, vous voyez, pour le vivre pleinement. Alors, ça me semble tellement important, vous voyez, de demander dans cette fête de la Sainte Trinité, vous voyez, que, au fond, que c'est vraiment le mystère de la Sainte Trinité au centre, en quelque sorte, de toute notre vie. Comme je dis, que ce soit le Dieu des pauvres, que ce soit le Dieu des agonisants, que ce soit le Dieu, et en même temps le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu existant, existentiel, ce soit pour moi une évidence. Mais vous voyez, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut me le faire vivre. Vous comprenez? Saint Thomas d'Aquin, un très beau passage dans sa somme. Et quand il dit que tous les noms, les noms de la philosophie, qu'on donne à Dieu, sont des noms qui viennent de la créature. Les seuls noms propres de Dieu, c'est Père, Fils, Esprit Saint. C'est les seuls noms propres de Dieu. Alors, si vous êtes apôtre, vous constaterez que quand vous parlez à des gens simples, à des gens pauvres, à des gens tout ouverts, quand vous les introduire dans le mystère de Dieu, c'est tout à fait différent quand vous parlez du Dieu tout-puissant, du Dieu très intelligent, du Dieu pensé de la pensée, du Dieu bien infini. Ou bien si vous parlez du Père, vous parlez du Saint-Esprit. Mais en respectant, vous voyez, la manière dont l'Église parle, pas en parlant de l'Esprit seul, non. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il a été révélé. Parce que ce n'est pas une inspiration, c'est une inspiration substantielle, subsistante, coexistante, coéternelle avec le Père et le Fils. Et c'est pas là qu'il, justement, c'est sa sainteté qu'il donne. Et au fond, c'est exprimé, c'est Dieu l'a exprimé de cette manière. Dans le Saint-Esprit. Là, vous vous apercevrez d'une chose, c'est que votre prédication sera beaucoup plus, aura plus efficace si vous prenez ces noms de la révélation, si vous présentez tout de suite le mystère de la Sainte Trinité. Ah, elle sera beaucoup plus critiquée aussi. Voyez, parce que tous les esprits forts, ils sont là, au fond, ils on ne comprend pas. Mais si vous avez la prédication comme saint Paul, la sainte prédication, hein, qui est folie au plan du grec, qui est scandale au plan du juif, hein, mais qui est sagesse, la seule sagesse d'un chrétien, vous voyez, c'est quand, au fond, il atteint le mystère de la Sainte Trinité. Vous voyez, Frostat, vous savez, dans son livre, il reprend une parole du Père de Haut, hein, disait que le mystère, hein, c'était ce qui était tout à fait caché et obscur en soi-même, mais c'est éclairé tout. Le mystère des mystères, c'est la Sainte Trinité. Vous voyez, la Sainte Trinité, c'est vraiment le mystère que on ne peut se reposer dans la Sainte Trinité que si on reste au plan du cœur. Tant que vous êtes au plan de l'esprit, au plan de la raison, vous ne pouvez pas vous reposer dans le mystère de la Sainte Trinité. Vous raisonnez, vous tâchez de trouver tout à l'aspect. Enfin, vous n'avez pas de repos. Vous ne pouvez avoir de repos dans le mystère de la Sainte Trinité que lorsque le bon Dieu vous a fait une telle confiance dans son amour, que vous vous contentez de vous reposer dans les personnes. Mais en ne cherchant plus du tout à imaginer, en ne cherchant plus du tout à vous représenter, en ne cherchant plus du tout, en quelque sorte, à pouvoir, en quelque sorte, formuler. Mais où ces simples noms divins, qui sont des signes qui vous mettent par la grâce de Dieu, par l'inspiration intérieure, mettent en rapport avec les personnes divines. Vous voyez, et alors, c'est à partir de ce moment-là que vous apercevez que ce mystère des mystères, qui est la Sainte Trinité, ça éclaire tout. Et ça éclaire tout dans le monde, ça éclaire tout dans l'incarnation, ça éclaire tout dans le mystère de l'Église, ça éclaire tout dans les rapports de Jésus et de Marie. Ça éclaire tout pour les trois vertus théologales, parce qu'on ne peut pas comprendre et approfondir les trois vertus théologales si ce n'est pas en liaison intime avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Parce que, au fond, la foi a un lien tout particulier avec le Père. L'espérance, au fond, avec le Fils. Et l'amour, l'Esprit Saint. Mais pour que tout ça doit être vécu, mais je dirais, par le cœur, dans la Sainte Trinité. Là, pour ça, c'est toujours très doux. Vous voyez, puisque c'est dans le Dieu de l'histoire. L'histoire, c'est toujours très doux de revenir aux origines. Et nous rappeler quand est-ce que la Sainte Trinité a été révélée pour la première fois à une créature humaine. Ça a été à Marie à l'Annonciation. Au fond, le mystère de l'Annonciation, pour moi, vous savez bien, il y a une prédilection pour ce mystère, parce que c'est vrai. C'est à ce moment-là que la Sainte Trinité a été révélée à Marie. Vous voyez ? Et quand la Sainte Trinité a été révélée à Marie, elle lui a été vraiment révélée comme le mystère des mystères, comme le Dieu du cœur, mais de façon absolument limpide. Vous voyez ? C'est si émouvant quand on pense au mystère de l'Annonciation. Vous voyez ? Et au fond, c'est très doux de vous le rappeler pendant cette année. Hein, parce que le pape a voulu commencer cette année du jubilé de la rédemption le jour de l'Annonciation. Parce que le jour de l'Annonciation, c'est ce jour-là où tout le destin de la création, de l'univers, des anges et des hommes, ça a été l'épreuve décisive. Puisque le Fils de Dieu avait bien décidé avec le Père et l'Esprit Saint de venir, librement sur la terre, mais ayant voulu que cet avènement dépende du fiat de Marie. Une créature humaine qui donne son fiat, qui accepte. Il voulait venir librement. Il voulait venir comme le fils de Marie. Donc, c'est ce jour-là que Marie a donné son fiat. Donc, c'est la grande date de l'histoire. Décisive dans l'histoire. Et qui a échappé complètement à tous les rois, à tous les docteurs, à tous les, au point à tous les sages. Vous voyez ? Et c'est Marie, tout simplement, la petite Marie. Marie, 18, 17 ans. Marie, l'épouse de l'Esprit Saint, c'est la seule. C'est celle qui est conquérée dans ce secret intime. Et qui, justement, parce que, étant l'Immaculée, elle a été capable d'entrer dans un tel secret. Et je lui ai toujours dit, parce que je pense que c'est très très important pour nous, vous voyez, pour bien comprendre le mystère de l'Annonciation, il faut le voir à la lumière de ce que Saint Jean de la Croix dit à propos de l'union transformante, donc des grâces mystiques qu'il appelle les plus profondes. Vous voyez, Saint Jean de la Croix montre qu'il y a des grâces de quiétude qui sont comme le commencement de la vie mystique, donc il existait déjà dans toutes les religions, qui a ensuite des grâces d'union, mais partielle, momentanée, comme dans la prédication, comme quand on est des œuvres de miséricorde, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, tous les prophètes les ont, c'est ça qui leur donne, au fond, la certitude de la parole de Dieu, que Dieu est bien présent, que c'est bien Dieu qui l'émeut, qui leur fait prononcer cette parole, qui leur fait faire tel geste. Mais on peut garder encore, le moi peut ne pas être brisé, et on peut déjà avoir ces grâces d'union. Mais on peut être un très grand prédicateur, et cependant garder un moi, la réactivité pour ne pas encore avoir été complètement brisé. On peut être quelqu'un plein de miséricorde, mais ce moi terrible ne peut ne pas avoir été brisé. Saint Jean de la Croix dit que sur la terre, ce moi peut être brisé, vous voyez, dans une union transformante. Voyez, avec l'Eucharistie, je dirais une union transsubstant, qui implique une transsubstantiation, voyez, qui implique que tout ce qu'il y a en nous, au fond, est pris par Dieu. C'est après cela que Saint Paul peut dire, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Au fond, tout ce qu'il y a de mon moi est disparu, au moins dans sa profondeur, dans sa racine. Vous voyez ? Eh bien, c'est très très important de voir que, à l'Annonciation, c'est réalisé pour Marie. Mais c'est très important pour nous aussi de savoir. À la Pentecôte, sera la même chose, sera réalisée pour les apôtres. Vous voyez ? Mais les apôtres ont dû passer par toutes sortes, toutes les croix qu'ils ont connues. Vous voyez ? Et ceux qui, à la Pentecôte, ont reçu pleinement cette grâce, parce que la Pentecôte a été donnée avec degré, et pas tous ceux qui étaient là à la Pentecôte avaient eu cette grâce plénière tout de suite. Vous voyez ? Bon, il y avait eu toutes sortes de préparations. Mais il faut bien que nous nous rendions compte que pour que nous vivions vraiment de la Sainte Trinité, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, que nous puissions plus nous reposer que dans la Sainte Trinité, mais que nous trouvions vraiment dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit Saint, ce repos. Vous voyez, qui nous met à l'abri, quand il veut bien nous donner cette grâce, à l'abri de toutes les angoisses, de toutes les angoisses de mort, de toutes les angoisses, n'importe lesquelles, mais que nous savons très bien que ces angoisses ne peuvent disparaître pleinement que quand nous sommes unis aux personnes divines. Mais alors, ça suppose cette brisure du moi. Vous voyez ? Et alors, nous avons vu comment le jour de l'Annonciation, qu'est-ce qu'il a été demandé à Marie ? Il a fallu qu'elle renonce, qu'elle accepte de renoncer à toutes les représentations qu'elle se faisait de Dieu, du Dieu de la lumière, du Dieu de la vie telle qu'elle pouvait le saisir, tous les symboles qu'il y avait dans la nature. Il a fallu qu'elle, que son espérance, parce qu'elle accepte la souffrance et peut-être la mort. Elle ne savait pas du tout où ça allait l'amener d'accepter de devenir la mère de Jésus, de Dieu. Et puis je fallait qu'au point de vue des amitiés, qu'elle renonce, au moins elle dise à Dieu, bah, si tu veux, tu peux me l'enlever. Donc, naturel, quelque sorte, qu'elle ne trouve plus de support. Oui. Que ça commence donc par une angoisse très très forte, où Marie, même l'Immaculée, est ébranlée dans son être, voyez, dans les sources mêmes de son être. Et puis qu'ensuite, après qu'elle a posé son objection, et que ce messager mystérieux ait répondu de telle manière, quand que cette réponse ait amené en elle que cette angoisse commence à se transformer en espérance. Mais si je suis si ébranlé, c'est peut-être parce que Dieu veut me recréer, c'est peut-être parce que Dieu veut me faire ressusciter, mais d'une façon toute nouvelle, c'est un être nouveau que j'ai commencé. Et puis que ce n'est que quand elle s'est enfoncée dans la nuit, dans la mort, dans un abandon complet, en faisant pleine confiance au Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit lui a été donnée. Et c'est cette personne du Saint-Esprit qui lui a donné son fils, d'abord comme fils de Dieu. Et puis, dans cette don de fils de Dieu, je dis, comme son fils, comme son enfant, l'enfant de ses entrailles. Il dit que c'est ce tout petit Jésus qui lui a fait découvrir le Père. Mais vous voyez que ce mystère de la Sainte Trinité a été révélé à la Sainte Vierge par le Saint-Esprit, mais en demandant à Marie au fond un dépouillement complet. Vous voyez, bon, et pour que le Saint, nous puissions nous reposer dans la Sainte Trinité, vous voyez, pour que le mystère de la Sainte Trinité devienne vraiment notre famille, notre amitié, et notre cité sainte, parce que tout, la Sainte Trinité, c'est tout cela. Vous voyez, bien, il faut que nous acceptions de nous laisser complètement détachés de notre pays, de notre famille, de toutes nos amitiés de la terre, de tout. Vous voyez, ce qui est à la Pentecôte, c'est réalisé aussi pour les apôtres. Vous voyez, alors c'est très très important pour nous, parce que, vous voyez, il y a beaucoup de degrés. La Sainte Trinité, ça peut être, nous pouvons avoir le sens au plan de la foi, dans une foi très forte, de celui qui croit au symbole des apôtres, que toutes les vérités de la foi, il faut les ramener aux personnes divines. Au fond, il ne faut plus qu'il les ramène aux transcendentaux, il ne faut plus qu'il les ramène simplement aux prédicaments, mais que ce soit vraiment à ces personnes divines. Et puis cette foi, elle peut venir plus vivante. On peut découvrir en fait qu'au fond, cette religion, c'est la Sainte Trinité, le Dieu de la Sainte, d'amour, c'est celui qui nous demande le plus de nous emporter. C'est la religion la plus dynamique. C'est pas une religion statique du tout. Et puis, il y a cette expérience dans laquelle Dieu nous donne la personne du Saint-Esprit, mais où il faut vraiment couper toutes les amarres. C'est vraiment nous laisser emporter pleinement. Alors c'est quand on voit ce mystère de l'Annonciation, c'est extrêmement éclairant pour nous. Vous voyez, parce qu'on voit que jamais nous n'irons, la Sainte Trinité, ça restera toujours pour nous, ça a été le principe, sera toujours la fin, dépasseront jamais la Sainte Trinité. Non. Si jamais vous avez l'impression d'être blessé, alors c'est très très dangereux. Et vous n'êtes plus du tout, du tout, du tout dans... Mais il faut savoir en même temps que pour vraiment pénétrer dans le cœur de la Sainte Trinité, vraiment pouvoir dire à Jésus, bien, te remercie tellement de m'avoir fait connaître ton Père, de m'avoir fait connaître l'Esprit Saint. Je te remercie tellement de m'avoir donné le secret de ton cœur. Je te remercie tellement de m'avoir donné Marie pour me faire connaître. Et au fond, c'est tout pour moi. Ben, il faut savoir pour que ça devienne vraiment pleinement, ben, que tous les dépouillements, il faut que ça nous manque. Vous voyez ? Et vous comprenez que c'est là qu'on voit comment la mystique chrétienne, la grandeur de la mystique chrétienne, vous voyez, c'est que la mystique chrétienne, vous voyez, elle ne fait qu'un. Expérience divine et les données, les dogmes, vous voyez, ça ne fait qu'un. Et puis en même temps, c'est ce qui, la pratique, la vie, elle prend le plus fort. C'est les trois vertus théologales. Hein, pas dire que les vertus, trois vertus théologales, elles sont ni spéculatives, ni pratiques, ni esthétiques. Elles sont divines, tout simplement. Elles sont théologales. Leur source est de Dieu. Elles nous poussent à Dieu. Et pour les vivre pleinement, il faut que ce soit Dieu qui nous mène. Hein, vous voyez, et alors, c'est ce grand mystère de la Sainte Trinité. Hein, et plus le Saint-Esprit vous donnera de l'approfondir, vous comprendra que le mystère de l'Église, on ne peut pas le comprendre. C'est à la lumière de la Sainte Trinité. Vous voyez, tout l'écuménisme, tellement important, ne pas rester au point de vue de l'unité comme transcendantal. Alors, vous ne pénètre pas. Vous voyez, c'est ce mystère de l'unité. Père, qu'il soit un, comme et moi, nous sommes un. Mais là, vous verrez que plus vous vivrez de la Sainte Trinité, que à la fois, c'est ce mystère le plus obscur, parce qu'il faut accepter de rester dans la nuit complète, et c'est celui qui éclaire l'homme de tout, c'est-à-dire qui éclaire vraiment de façon extraordinaire. Mais à condition qu'on sache que lui-même, ça reste obscur. Vous voyez ? Que c'est avec le cœur qu'il faut se reposer dans la Sainte Trinité. Que quand le Saint-Esprit nous prend, hein, comme ce feu divin qui nous arrache à nous-mêmes, nous arrache à tout, hein, comme ce feu qui fait de notre cœur un buisson ardent, hein, qui brûle sans se consumer, hein, mais qui brûle, hein, vous voyez, qui brûle de façon paisible en quelque sorte, peut-être très douloureuse, mais en même temps paisible. Vous voyez, qui brûle sans amertume, vous voyez, mais qu'il faut se laisser brûler. C'est ça qui nous refait. Ça nous refait ou ça nous fait mourir. Mais au fond, ça n'a pas d'importance. Pas plus que la Sainte Trinité, c'est la grâce qu'il faut dépasser les deux. Vous voyez, au fond, pour être savoir, on commence déjà la vie éternelle. Vous voyez. Alors, je voudrais pour. Un petit peu en terminant. Vous voyez, vous donnez trois petits moyens, quelque part, qui peuvent nous aider à tâcher de nous acheminer de la façon la plus directe pour que le Saint-Esprit nous fasse entrer dans ce grand mystère. Vous voyez, dans ces trois attitudes que je vais parler beaucoup pendant le carême, mais qui, le jour de la fête de la Sainte Trinité, elles sont toutes résumées. Vous voyez, l'adoration, hein, le sens des petits sacrifices ou des grands sacrifices, et puis savoir pardonner, hein, les réconciliations. Hein. Vous voyez, l'adoration est beaucoup parlée. Hein, c'est l'attitude qui nous au Père. C'est du tout petit enfant. Adoration, la différence avec l'admiration, avec l'émerveillement. La différence avec l'angoisse aussi. Ben, en face de quelque chose de terrifiant, ben, on ne reste pas aux merveilles ou on ne reste pas aux choses terrifiantes. Tout de suite, on adore le mystère de son Dieu. Et alors, le mystère des mystères, c'est la Sainte Trinité. Et là, on reste en silence. Et alors, puisque Jésus est venu nous donner les noms des personnes divines pour nous stabiliser, parce que nous sommes faits de telle manière que nous avons besoin, pour le Père s'arrête, nous avons besoin de noms. Du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Et nous restons dans une attitude d'adoration. Nous adorons le Père, nous adorons ses desseins, nous adorons sa volonté. Au fond, nous savons que cette attitude... L'adoration a un immense avantage, c'est que ce n'est pas nécessairement une attitude mystique. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est sûr que c'est aimé par le Saint-Esprit, par Dieu. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas là, on ne peut pas se laisser aimer, si vous voulez. L'adoration, nous en sommes tous capables. Et nous voyons comment, dès le début, vous voyez, l'adoration, ça nous fait dépasser toutes les idoles, ça nous fait dépasser tous les mythes. Vous voyez, pour tout de suite arriver au mystère de Dieu. Hein? Parce que c'est le Dieu unique, toujours, qu'on adore. Et c'est un Dieu personnel, vous voyez, pas une idée. Ce n'est pas un Dieu symbolique. Vous voyez? Alors c'est ça une très simple de l'adoration. Vous voyez? Et vous voulez montrer comment l'adoration unifie tout en nous, l'intelligence, la volonté, le corps. Vous voyez? Parce qu'on n'adore pas d'une façon purement mentale. Au fond, l'adoration, ce n'est pas une simple pensée. Vous voyez, tout naturellement, quand on adore, au fond, on a les mains jointes. Voyez, quelqu'un qui n'est pas très adorateur, qui arrive comme ça, avec les mains ballantes, ça, c'est... Vous voyez, cette attitude très simple n'a pas trouvé. Vous voyez, parce que l'adoration n'a pas trop tout notre être pour reconnaître notre Dieu. Vous voyez, au fond, l'adoration donne des attitudes, en quelque sorte, très, très unifiées. Mais les attitudes tout à fait primitives, toutes simples, et les attitudes que les Occidentaux admirent quand ils vont aux Indes, qu'ils vont venir admirer, et puis quand ils sont venus dans leur pays, ils les voient chez les petits-enfants, ils ne les retrouvent pas, ils ne les comprennent pas. Bon, c'est une attitude très simple d'adoration. Ils ont tous très très fort besoin. Et là, il y a eu un vent contre l'adoration, contre toutes ces attitudes-là. C'est-à-dire, en ne voyant pas que l'adoration dépasse de beaucoup toutes les autorités de la terre, c'est tout de suite Dieu. Mais ce n'est pas Dieu comme tout-puissant. C'est Dieu dans son mystère. Ou humblement, on reconnaît qu'il y a un mystère en Dieu. Et alors, si, une fois qu'on reconnaît qu'il y a un mystère en Dieu, on atteint le mystère des mystères, on atteint la Sainte Trinité. Et alors, on a cette attitude d'adoration qui est au fond si simple. Et alors, Dieu peut nous faire grandir, nous donner une vie spirituelle très fervente, nous peut nous donner de grandes expériences mystiques. Nous donnons des adorateurs en esprit en vérité, comme Jésus le disait à la Samaritaine. Mais jamais nous quittons l'attitude de l'adoration. L'attitude toute première que, au fond, toute notre vie, nous sentirons. Mais voyez, l'adoration, c'est très très important, je l'ai déjà dit. C'est autre chose que simplement la louange. La louange, c'est les merveilles de Dieu. L'adoration, ça implique nécessairement un certain silence. Ça implique nécessairement une certaine immobilité. Vous voyez, parce qu'on est en face du mystère de son Dieu. Saint Jean de la Croix, quand il dit « silence, c'est de parler de Dieu », c'est vrai, c'est au fond la question de l'adoration. Vous voyez, et ça donne un sens du Père. Du Père en tant qu'il est le premier. C'est dans le sein du Père que nous atteignons Jésus et l'Esprit Saint. Donc, vous voyez, il y a un lien très fort avec l'adoration et le Père. La seconde attitude, vous voyez, ça, c'est par là que naît notre foi. Et chaque fois que nous sentons que notre foi peut être un petit peu en péril, revenons à des attitudes très simples d'adoration. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux. Au point de vue de l'expérience, c'est très, très sensible. Vous voyez, vous avez une très grande tentation au point de vue de la divinité de Jésus, n'importe, une très grande tentation. Si vous voulez réagir en disant « je crois », votre réaction, elle risque de fixer votre tentation. Parce que vous réagissez sur le même plan. Alors, ça devient une obsession. Et au fond, vous devenez tendu quand il dit « je crois » dans le sens que j'adhère. Vous voyez, c'est tout à fait autre chose quand on dit « j'adore ». Ça, c'est différent. Oui. Au pont, mon Jésus est à droite, mon Seigneur est mon Dieu. L'attitude toute simple, vous voyez, nos handicapés, là, ils ont toujours de. Quand ils ont été. Ils ont entendu ça une fois, ils l'ont cru. Non, c'est vrai, il y a des cousins au moment de la grâce de l'élévation, mon Seigneur est mon Dieu. Je crois que, au fond, Georges et René, je crois qu'ils le disaient toujours. Parce que ça leur semblait si fort en face de Jésus, mon Seigneur est mon Dieu. La phrase de saint Thomas, n'est-ce pas, quand il était devenu fidèle. Et qui nous montre bien que c'est un remède quand on a été infidèle. Non, de retrouver, vous voyez, l'adoration, ça nous aide à retrouver notre foi. C'est là, elle est née dans l'adoration. C'est tellement difficile de dire comment naît la foi. Non. J'ai déjà dit en riant, ben, quand naît la foi, elle ne peut pas naître morte. Donc, elle n'est pas d'abord comme une foi morte. Vous comprenez? Très contradictoire. Non. Un mort-né. Vous voyez, bon, elle naît nécessairement vivante, et comme la vie essentielle de la foi, c'est la vie éternelle, d'une foi d'amour, elle naît nécessairement dans un contact de personne, ou au moins qu'il y ait une grâce pour considérer son Dieu comme personnel, et non pas simplement comme une idée ou comme une force. Vous voyez, et c'est vrai, c'est un type d'adoration. C'est vrai qu'on veut dès le début. Hein? Vous voyez, mais c'est un mystère, l'adoration. Si vous prenez au plan de l'espérance, vous voyez, quand vous regardez l'Évangile, on a besoin de tout l'Évangile de Jésus. Il y en a besoin de la résurrection. Il y en a besoin de la fête de la Pentecôte pour comprendre ce qu'est l'espérance chrétienne. Pour comprendre tout ce qu'implique l'espérance chrétienne. Bien sûr, l'espérance, c'est la grande vertu de la vie. Vous voyez, si la foi, c'est la lumière, si l'adoration, ça nous fait dépasser, vous voyez, le Dieu de la lumière, s'entend qu'au centre, au cœur de cette lumière, il y a un foyer brûlant mais invisible. Enfin, au point de vue de la vie, hein, qui implique une croissance, bon, cette croissance, quand elle commence à être plus difficile, bon, il y a des difficultés. Moi, l'espérance implique essentiellement la difficulté, ça implique des épreuves, ça implique nécessairement des angoisses. Bien, on voit comment notre Seigneur dira, il est bon que je m'en aille pour qu'il y ait deux départs de Jésus. Son départ au moment de sa mort, et puis après ressuscité, qui est venu les réconcilier, qui est venu leur pardonner, qui est venu par leur présence leur redonner, fortifier leur foi, leur redonner le sens de l'espérance, il a fallu encore qu'il parte, qu'il laisse un moment avec Marie pour les préparer à recevoir la Pentecôte. Alors, vous voyez, les liens entre l'espérance et la difficulté, la mort, hein, les sacrifices. Alors, ça nous fait saisir que dans une vie humaine, si nous ne voulons pas avoir cette grande tentation, qui est une des grandes tentations de notre époque, de rester des gens égoïstes, des gens sans espérance, parce qu'ils ont été tellement habitués, dès que nous étions tout petits, à ce qu'on nous fasse tous nos caprices, à toujours chercher des jouissances immédiates, on a l'impression qu'on ne pouvait pas vivre sans jouissances immédiates. Vous voyez, que quand on n'a pas un bon droit à la bouche, il fallait prendre une cigarette, tu vois. Ou quand on n'avait pas quelque chose, il fallait tout de suite ouvrir n'importe quoi, ouvrir le poste de PSF, entendre quelque chose, ça avait besoin de sensations immédiates, peut-être de petites jouissances immédiates, comme s'il n'y avait que ça. Hein? Et que les premiers jours que nous avons commencé à faire des petits sacrifices, comme Marie le recommandait, au petit Fatima, hein? Savoir partager, savoir. Comme une maman dira à son grand-père, allez, laisse sa place à ton petit frère, allez, fais un petit sacrifice. Et puis qu'une fois qu'on a fait ce petit sacrifice, ce bon Dieu tous, il nous a donné une autre joie, la joie de l'espérance. Ah, cette joie intérieure, enfin, qui n'a pas l'intensité immédiatement de la jouissance, qui est pas un enivrement, qui n'est pas une expérience. Mais ben, cette joie beaucoup plus profonde, cette joie beaucoup plus permanente, la joie de l'espérance. Et alors, comme saint Augustin l'a découvert, en disant, mais tant que je restais dans le point de vue des au fond des émotions, les gens, oh, c'était tout le temps comme ça, c'est saleté, enthousiaste, puis tout à coup, tomber dans le trou. Et puis une fois que j'ai découvert l'espérance, j'arrive à trouver que, en acceptant les petits sacrifices, en découvrant qu'il y a une joie, la joie de l'espérance, hein, c'est-à-dire une joie, Jésus n'est pas encore là, hein, mais il est tout proche. Mais il y a en nous quelque chose, et que tant si on ne raisonne pas trop en disant, mais à quoi, bon, si on laisse cette espérance comme un mystère, hein, il y a cette espèce de joie, il y a quand il est encore dans l'absence, mais que les promesses qu'il a faites sont revues. Qu'on découvre la joie de l'espérance. Ça, c'est Jésus qui nous donne cette joie-là. Jésus, notre sauveur. Jésus a voulu vivre toute notre vie humaine, pas être mis au tombeau, non, remonter au ciel. Il est pour être pour nous ce guide, voyez, ce sauveur qui nous sert pour l'espérance. Ce mot même de Jésus, c'est sauveur. Alors, quand nous sentons dans les moments difficile. Enfin, c'est Jésus qui fortifiera notre espérance. Et nous savons que les prophètes de l'Ancien Testament, enfin, depuis Abraham, le premier, enfin, bon, ils ont fait bien, ils sont bien dans une religion d'espérance, de promesse, mais ce sont toutes des espérances partielles. La seule espérance qui concilie tout, parce qu'il donne la présence même de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus le Sauveur. Vous voyez, alors, de nous habituer, voyez, à côté de l'adoration, à avoir cette attitude d'espérance. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Pourquoi moi j'aime tellement cette adoration? J'ai tout petit que je l'ai appris. Non, et elle m'a toujours rendu tellement de service que j'aime toujours la répéter. Non, vous voyez, parce que qu'est-ce que c'est que la confiance, hein? C'est l'espérance d'amour. C'est ça tout simplement. Non, c'est l'espérance d'amour. Qu'on a espérance en celui qu'on aime. Alors, comme on l'aime, on a espérance en lui, même s'il est loin, on sait qu'il est en Inde, il a promis. Ben, il est dit, donc on s'appuie sur lui. Voyez, et c'est si consolant quand on regarde à la croix, voyez, que Jésus n'est pas mort en agonie. Non, Jésus a connu une agonie très forte sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'est pas sa dernière parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Non. Et il est mort dans une attitude de confiance. Et en même temps, avec le grand cri, dans une extase d'amour. Vous voyez, et de savoir qu'en fait, les angoisses sont aimées, si on a assez de courage, de force en Dieu, ben, elles passeront toujours. Dieu ne nous maintiendra jamais complètement dans l'angoisse. Et une fois que nous avons ces deux compagnes de l'espérance, qui est la patience et la persévérance, alors ça fortifie notre espérance. Mais pour tout ça, c'est Jésus qui est notre aide. Pour venir à Jésus. Et pour venir à Jésus avec Marie, qui est notre espérance à la croix. Vous voyez? Et nous rappeler que, au fond, les apôtres ont très vite compris l'enseignement de Jésus au point de vue de la foi, mais au point de vue de l'espérance, ils ont eu beaucoup de difficultés parce qu'ils n'avaient pas accepté la croix. Et tant que nous n'avons pas accepté la croix, nous ne pouvons pas avoir une véritable espérance chrétienne. Tant que nous restons à dire, oh ben, je veux bien toutes les difficultés, mais pas la croix. Non, on peut même nous mesurer dans les difficultés. Moi, enfin, ben, mon Dieu, ben, oui, je veux bien marcher, mais pas trop loin. Ne me demande pas tout. Et alors, tant qu'on est de cette manière, tant que quand la croix nous visite, bon, on ne la prend pas avec amour, au fond, on ne peut pas avoir cette vraie grâce de l'espérance. Parce que c'est une très grande grâce, vous voyez. Il faut la demander avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de persévérance. Il faut la demander continuellement. Mais aimer Jésus comme sauveur, aimer son nom, l'appeler, parce qu'il est le seul qui peut nous donner cette espérance. Vous prenez de l'espérance en tant besoin de Jésus. Vous voyez, Marie elle-même, hein. Marie, Le Saint-Esprit lui a été donné au début de cette vie nouvelle que marquait l'Annonciation. Mais le Saint-Esprit lui a donné tout de suite Jésus comme compagnon pour toute cette longue route qu'elle avait à faire. Et quand Jésus lui a été retiré sur la terre, Jésus lui a donné l'Eucharistie comme viatique. Il n'aurait pas pu rester sur la terre s'il n'y avait pas eu ce viatique. Donc elle est bien l'exemple. Marie elle-même, la reine du monde, l'épouse mystique du Saint-Esprit. Elle, tant qu'elle était sur la terre, dans la foi et dans l'espérance, elle a eu besoin de Jésus. Elle est notre modèle dans l'espérance parce qu'elle se cramponne à Jésus. Vous voyez que Marie ne dit pas, moi je suis l'épouse de l'Esprit-Saint, je n'ai pas besoin de Jésus. Au fond, nous avons besoin. Vous voyez, comme Saint Jean de la Croix dit à Sainte Thérèse, jamais n'abandonner l'humanité de Jésus. Jamais n'abandonner la croix de Jésus. Vous en aviez absolument besoin pour l'espérance. Vous voyez. Et puis alors, le troisième point. Vous voyez, parce que ce sera comme trois attitudes fondamentales. Vous voyez, qui résument un petit peu tout ce que nous avons vu pendant notre carême et pendant le temps pascal. Vous voyez, l'adoration. Vous voyez, c'est lié avec la foi, c'est lié avec le Père. L'espérance, le sacrifice, Jésus. Jésus viateur, Jésus avec la vie. Et puis, le fait de pardonner. Et en même temps, le fait de faire miséricorde. Et en même temps, le fait de savoir être un réconciliateur. Pour toutes ces attitudes qui sont les attitudes essentielles de l'Église de Jésus. Dont le pape nous donne tout le temps l'exemple de l'Église comme société. Comme cette société spirituelle, Dieu l'a établie pour ça, pour cette fonction-là. C'est pour ça qu'elle a distingué du pouvoir temporel. Alors là, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint comme divin consolateur. Vous voyez, Jésus vous donne l'exemple du pardon. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la force intérieure pour pardonner. Vous voyez? Et rappelez-vous comment, à la croix, vous voyez, quand Jean était à la croix, là, tout désespéré, vous voyez, dans ce désespoir, dans ce désarroi de Jean, il y avait sûrement le fait qu'il n'arrivait pas à pardonner à Pierre. Vous voyez, au fond, d'avoir renié Jésus. Vous voyez, il n'arrivait pas, au fond, à retrouver, à pardonner aussi à Judas. Il n'arrivait pas à pardonner. Et qui était tourmenté. Il a fallu que Marie lui soit donnée comme mère. Et quand elle l'a embrassé, a commencé la Pentecôte pour lui. Mais la Pentecôte pour lui a commencé par le fait qu'il a su pardonner. La première parole de Jésus, qui a été trop dure pour lui, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment est-ce que Jésus peut dire ça? Vous voyez, Marie, elle l'a accepté tout de suite. Marie avait le Saint-Esprit avec elle. Et Saint-Esprit était là pour la faire justement vivre la vie et la mort de Jésus. Vous voyez, alors, dans ces moments-là, il y a une intelligence de la foi. Il y a l'intelligence de la foi, c'est que, au fond, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils sont un seul Dieu. Mais au fond, en fait, il y a des moments où il faut mieux le Père ou le Fils ou l'Esprit Saint pour les invoquer. Bien sûr, Jésus il a la plénitude du Saint-Esprit dans son cœur, il a le pardon plénier. Mais au fond, quand il y a des moments où on a besoin de pardon, il faut demander au Saint-Esprit. De même pour la miséricorde. Ce n'est pas si facile que ça de faire la miséricorde. Et puis vous avez la miséricorde, c'est toujours réciproque. Vous pouvez avoir un cœur plein de miséricorde. Une bonne volonté foncière, mais être maladroit comme tout, et puis au lieu de faire miséricorde, blesser terriblement celui auquel vous vous adressez. La miséricorde, il faut que le Saint-Esprit soit des deux côtés. Il faut qu'il y ait une rencontre. Vous voyez, parce qu'autrefois, quelquefois, on se heurte même sans le vouloir. On va voir, au fond, on veut se réconcilier, on a tout à fait l'intention, et puis on se prend en face de la personne, donc juste le contraire de ce qu'on voulait dire, on lui dit une injure. Alors qu'on voulait au contraire dire, bon, même ça arrive qu'on lui donne une claque juste au moment qu'on voulait l'embrasser. Et c'était trop fort. Mais oui, mais c'est très concret ça, c'est pas des imaginations. Non, il ne faut pas avoir Il suffit d'avoir un peu de ministère pour s'apercevoir que je... Mais oui, c'est une chose qui se vit, très fort. Vous voyez, enfin, pour faire les œuvres de miséricorde, on a besoin du Saint-Esprit. Vous voyez. Et pour les œuvres de paix, ça c'est peut-être une des plus belles choses de saint Thomas. Ben, quand saint Thomas parle du don de sagesse, ben, il dit que il rattache la paix au don de sagesse. Et il dit qu'il n'y a que le don de sagesse, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire la paix. Ben, nous nous pouvons tendre vers la justice, il y a un monde entre la justice et la paix. Vous pouvez avoir une belle communauté, tout semble bien ordonné. Au fond, vu tout le monde est bien à sa place, mais il n'y a pas de paix. Oh, ça grince. Au fond, ils ont tout fait tellement, au fond, tellement sérieux. Ça étouffe. Il n'y a pas l'Esprit Saint. Vous voyez. Alors vous voyez, c'est ce que, pendant cette fête de la Sainte Trinité, vous voyez, je pense qu'il y a un petit peu tout un programme qui nous est donné là. Vous voyez. À la fois au plan théologique, hein, au plan de notre cœur, et un point de vue tout à fait pratique. Vous voyez. Au fond, comment il y a continuellement dans nos vies des petites occasions où nous avons à avoir une rencontre avec le Père, hein, dans l'adoration, où nous avons à avoir une rencontre avec Jésus, hein, où nous avons à avoir une rencontre avec le Saint-Esprit. Vous voyez. Mais à partir même de nos difficultés, tout à fait dans l'esprit des béatitudes. Thank you.